Chapitre 21. En répondant à Célanie comme elle l'avait fait, Marichette avait obéi au premier mouvement de sa conscience. C'était son devoir de rester près de son cousin, elle n'écoutait que son devoir. Mais lorsqu'elle avait été seule, elle avait écouté la raison et pesé la responsabilité dont elle s'était chargée. Quand Madame de la Broquerie ou Madame Voisard la harcelait de questions et d'insinuations, elle n'en disait rien à Paulin. À quoi bon? Mais dans la démarche de sa tante, il y avait autre chose que des questions curieuses et des insinuations malveillantes, une proposition grave que Paulin devait connaître, lui semblait-il. Ne devait-elle pas tout lui dire? Et quand elle avait pris une résolution de cette importance, ne devait-elle pas en partager la responsabilité avec lui? Elle eût voulu l'avoir là, près d'elle, pour se confesser tout de suite. Mais c'était dimanche, et elle dut attendre le lendemain. Encore ne put-elle être seule avec lui que dans l'après-midi. « Vous savez que j'ai vu ma cousine Célanie hier ?» dit-elle lorsqu'il revint. « C'est ce que ma mère m'a raconté. Elle voulait vous parler. Devinez-vous ce qu'elle voulait me proposer ?»« Pas du tout. Je vous assure que ma mère et moi, nous avons agité cette question et que nous n'avons rien trouvé de satisfaisant. » De là mon tourment, en voyant le regard inquiet que vous avez attaché sur moi plusieurs fois depuis ce matin. Ma cousine m'a proposé de quitter Saint-Maclou pour aller chez elle à Criquefleur. Pourquoi? Parce qu'elle est indignée que mon cousin Simon me fasse faire la cuisine, elle trouve que cela est dégradant. Vous avez répondu que je n'étais pas humiliée de rendre ce service à mon cousin, que mon devoir était de rester près de lui et que j'obéissais à mon devoir. Chère Marichette, vous m'approuvez? Pouviez-vous quitter cette maison? Que serais-je devenue? Si vous saviez comme j'étais impatiente de vous parler de cela, j'ai fait cette réponse sans réflexion. Mais depuis, je me suis demandé si, de votre côté, vous ne pensiez pas, comme ma cousine, qu'il était dégradant pour votre fiancée de faire la cuisine. Rien de ce que vous faites ne peut être dégradant. Assurément, je suis malheureux que M. Belloc ait eu cette idée de vous demander de lui préparer ses repas. Mais jamais je n'ai trouvé cela humiliant pour vous. C'est justement ce que j'ai dit, que je suis heureuse de trouver ma réponse dans votre bouche. C'était mon angoisse de savoir si vous m'approuveriez. J'ai donc parlé comme si je vous avais consulté. Comment ne vous approuverais-je pas? Cependant, j'avoue que je serais bien aise de voir M. Belloc se décider à remplacer Divine. L'approbation de Paulin avait dissipé l'inquiétude de Marichette. « Bah ! » dit-elle en riant, « plus je ferai longtemps la cuisine, mieux j'apprendrai à la faire pour nous quand nous serons mariés. » « Vous verrez, dites-moi les plats que vous préférez, je les travaillerai dès maintenant. » Quand nous serons mariés, ce mot jeté dans cet entretien, qui avait commencé pour tous les deux d'une façon pénible, fut un rayon de soleil au milieu d'un ciel gris. Les tristesses, les inquiétudes de leur présente s'évanouirent, ils ne virent plus que l'avenir radieux qui s'ouvrait devant eux. « Quand nous serons mariés !» Ils avaient encore l'un et l'autre bien des choses à se dire sur ce sujet, et qu'ils retardaient depuis longtemps, précisément parce qu'elles étaient difficiles, mais ce n'était plus le moment de les aborder et de descendre des hauteurs sérieuses où ce mot les avait transportés, quand nous serons mariés. Plus tard. Et tous deux, en même temps, avaient la même pensée. Quand Marichette m'ouvrira la bouche, je parlerai, se disait Paulin. Quand Paulin m'ouvrira la bouche, je parlerai, se disait Marichette. D'ailleurs, ils ne tardèrent pas à être interrompus par l'arrivée de Belloc, et ils durent reprendre chacun de son côté leur besogne de tous les jours. C'était le mauvais temps qui obligeait Belloc à rentrer. Un violent coup de vent du nord-ouest s'était élevé dans la matinée, et depuis une heure, ces rafales étaient accompagnées de torrents de pluie qui noyaient tout. Les nuages traînant jusqu'à terre passaient, emportés par l'ouragan, et par moments, ils étaient si noirs, si épais, que l'obscurité se faisait comme si la nuit avait approché. Dans les cheminées, dans les corridors, la bourrasque hurlait lamentablement. Quand elle s'apaisait pour quelques minutes, on entendait au loin le fracas de la mer démontée. C'était un homme fort que Belloc et à la poigne solide. Cependant, lorsqu'il ouvrit la porte du bureau, précisément exposée au nord-ouest, elle l'entraîna, bien qu'il la retint à deux mains, et un flot d'eau s'engouffra avec lui jusqu'au milieu de la pièce. Depuis 10 mois que Maruchette était à Saint-Maclou, elle avait appris ce qu'est un coup de vent de nord-ouest sur ses côtes. Mais elle n'en avait pas encore vu un aussi violent, surtout aussi mouillé, et en regardant la pluie s'écraser et rouler sur les vitres, il lui venait une idée qui la faisait sourire. Si la bourrasque continuait ainsi, son oncle comprendrait sans doute que Paulin ne pouvait pas, sous cette pluie diluvienne, monter la côte de Criquefleur et il le garderait à dîner. De peur que cette idée ne se présentât pas à l'esprit de son oncle comme elle s'était présentée au sien, elle eut l'audace d'essayer de la lui suggérer. « C'est Monsieur Paulin qui va être mouillé en rentrant pour dîner, » dit-elle. « Ça lui fera un bain, » répondit Belloc, qui ne comprit pas ou ne voulut pas comprendre l'invite qui lui arrivait. Au moment du coucher du soleil, il y eut une accalmie. Si le vent ne faiblit guère, la pluie au moins cessa de tomber et le ciel s'éclaira d'une grande lueur jaune sur laquelle continuaient de passer les nuages noirs. Paulin put alors partir. Et après le dîner, Belloc sortit aussi. Quand Benjamin eut fini son ménage, Maruchette resta seule dans cette grande maison déserte. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, mais jamais elle ne lui avait trouvé le caractère sinistre que lui donnaient sans doute ce soir-là les secousses de la tempête, les plaintes du vent et les rafales qui, par instants, soulevaient la flamme de sa lampe et jetaient çà et là dans les ombres des lueurs fantastiques. Elle monta à sa chambre et resta à sa fenêtre à regarder les nuages passer sur la face de la lune, qui ne se montraient de temps en temps que pour disparaître aussitôt dans leur tourbillon. Mais bientôt, la pluie reprenant et brouillant tout, Maruchette, qui n'avait plus rien à regarder, se coucha. Ordinairement, le vent la berçait et l'endormait assez vite. Mais ce soir-là, ce n'était plus un bercement, c'était de brusques secousses, des heurts, des gémissements, des hurlements, des craquements, à croire que la maison allait être emportée. Cependant, elle avait fini par s'endormir lorsque des coups frappés à sa porte la réveillèrent en sursaut. Elle crut que c'était le vent qui avait secoué sa porte un peu plus fort, mais deux coups furent frappés de nouveau, nets et distincts. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. « Ouvre !» dit la voix de son cousin. « C'est moi !»« Tout de suite !» Sautant à bas de son lit, sans bien savoir ce qu'elle faisait, à moitié endormie, elle passa un jupon, éclairé par la lumière de la lune qui glissait entre deux nuages, et elle ouvrit sa porte. Vivement, Belloc entra et referma la porte en faisant tourner le pêne. Toute surprise, elle recula de deux pas. « Vous avez besoin de moi ? » murmura-t-elle instinctivement. Sans répondre, il continuait de marcher sur elle, et comme à ce moment la lumière de la lune, qui entrait librement par les fenêtres sans volets et sans rideaux, le frappait en plein, elle vit dans son visage pâle ses yeux qui lançaient des éclairs. La peur la glaça, et elle se jeta en arrière du côté des fenêtres. Il continuait d'avancer, les bras étendus, sans parler. « Mon cousin ! » s'écria-t-elle. « Eh bien quoi ? Ne vas-tu pas avoir peur ?» Et il allongea les bras pour la prendre. Mais elle se baissa vivement et lui glissa entre les mains. À ce moment, la lune fut voilée par les nuages et, instantanément, l'obscurité se fit dans la chambre comme si on venait d'éteindre brusquement une lampe. Cependant, cette obscurité n'était pas si opaque qu'ils ne se vissent pas l'un et l'autre confusément. C'était maintenant son cousin qui était adossé à la fenêtre et elle qui lui faisait face. « Ne fais donc pas la sotte, » dit-il. Elle était éperdue et l'épouvante, l'horreur, l'affolait. Elle jetait autour d'elle des regards désespérés, cherchant où fuir, où se cacher. Mais dans cette chambre nue, il n'y avait même pas de meubles derrière lesquels elle put se réfugier. « Mon cousin !» s'écria-t-elle. « Mon cousin, ayez pitié de moi !» Et elle reculait toujours, tandis qu'il avançait toujours, les bras étendus. C'était miracle qu'il ne l'eût pas encore saisie de ses mains puissantes. Par moments, elle sentait son souffle la brûler. Alors le souvenir des paroles de Divine lui revint. « Si vous approchez, dit-elle, je crie au secours, on viendra !» Mais comment sa faible voix eut-elle été entendue au milieu du hurlement de la tempête? Où était-il, ce qui, dans la ville déserte et endormie, pouvait venir à son secours? Il l'avait enfin atteinte, et sans souci de ses menaces, de ses cris, comme de ses supplications, il l'avait étreinte dans ses deux bras, sans qu'elle pût se débattre et résister.